En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture est accomplie. Et maintenant que je viens à toi, Père, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, mais le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Père, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Ce gros livre dans lequel je viens de lire l'Évangile s'appelle un lectionnaire, et l'Église catholique nous donne ainsi pour chaque dimanche des passages de la Bible à proclamer, à écouter, à méditer, dont nous pouvons nous nourrir. Donc on n'a pas choisi pour la profession de foi des passages spéciaux dans la Bible, on prend ceux que l'Église nous donne aujourd'hui, 7e dimanche de Pâques, et vous avez entendu dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, comment on nous raconte ce qui s'est passé entre l'ascension de Jésus et puis 10 jours plus tard, la Pentecôte. L'ascension de Jésus, on l'a fêtée jeudi dernier, et vous vous souvenez en France. Ah oui, ça vous en souvenez sûrement, c'est un jour férié. Parce qu'il y a une époque où, pour permettre au maximum de gens de participer à la célébration liturgique, on a décidé de leur proposer de ne pas travailler. Aujourd'hui, ça semble un peu bizarre, et c'est un jour qui finit par ne plus avoir beaucoup de sens pour les gens, si ce n'est un jour de congé. Mais enfin, à l'origine, c'est un jour de fête religieuse où on célèbre la dernière apparition de Jésus ressuscité et la façon dont il est rentré dans l'invisible du Père, dans la gloire du Père, tout en restant tout proche de nous. Et que s'est-il passé entre ce moment-là et puis 10 jours plus tard, la venue du Saint-Esprit, nous allons le célébrer dimanche prochain, la Pentecôte. Alors, on a fait un certain nombre de choses. Les apôtres sont restés réunis ensemble, sont restés à prier pour se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Et avec eux, il y avait la Vierge Marie. Et ils étaient quand même assez nombreux, il n'y avait pas seulement les 12, ou plutôt les 11, ils étaient 120, on nous le dit là, dans la lecture qu'on a faite. Et puis il y avait quelques femmes qui étaient là, et Marie, mère de Jésus, était là aussi. Et puis, là, une des choses que l'on a cru bon de faire, c'était de remplacer Judas. Judas qui avait trahi Jésus et qui avait disparu. Et le groupe des 12 que Jésus avait fondé et qu'il avait voulu comme tel se trouvait amputé d'un de ses membres qui avait déserté. Et un des soucis, ça a été de se dire Jésus a voulu 12, on va rester à 12. Et on a donc choisi de compléter le collège des apôtres en élisant, après une prière par tirage au sort, l'un des deux qui était présenté, et ça a donc été Matthias. Mais voilà, il peut y avoir des désertions dans l'Église, il peut y avoir des chrétiens qui disparaissent, qui sont, au lieu d'être membres actifs de l'Église, finissent par disparaître complètement, n'empêche que le Seigneur a prévu notre place dans l'Église. C'est très important cela. Notre place est unique, personne ne peut la prendre d'une certaine façon, sauf si nous renions complètement et nous disons vraiment que nous n'en voulons plus, c'est évident. Mais sinon, personne ne la prendra. Nous avons chacun une place. Et ces enfants qui vont faire leur profession de foi, la question se pose évidemment demain, quelle sera leur place dans l'Église? Et quelle place voudront-ils prendre? Parce que quelle place auront-ils? Ça, on est tout prêt à leur faire une place, il n'y a aucun problème. Mais quelle place veulent-ils prendre? Et quelle place, vous, les parents, souhaitez-vous qu'ils prennent dans l'Église? Bonne question. De sorte que la profession de foi ne se termine pas par une sorte de disparition, je ne veux pas dire une désertion, le mot serait mal placé, mais une disparition. Après la profession de foi, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Alors faut-il dire au revoir aujourd'hui, c'est le grand adieu? La question se pose. Et pourtant, nous avons besoin de chacun de vous comme chrétiens demain. Puis deuxième petite chose que je voulais dire, dans la prière que Jésus a faite le jeudi saint au soir, avant de mourir sur la croix, il a prié pour ses disciples, il a prié pour tous les chrétiens. Et il a dit, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les garder du mauvais, avec un M majuscule, de les garder du mal. » Parce que Jésus sait qu'il y a au cœur de ce monde une puissance du mal qui est capable de nous faire dévier de la foi, renier la foi. Et nous avons besoin que Jésus prie pour nous et nous obtienne d'être forts. Vous voyez, le régime de la foi est un régime incandescent. Ceux qui le vivent en ce moment, ce sont nos frères chrétiens d'Orient. Nos frères chrétiens d'Orient, en ce moment, sont sous un régime de persécution. Ce n'est pas du tout la première fois que ça se produit dans l'Église. Il faut quand même penser que les premiers chrétiens, pendant plusieurs siècles, ont vécu sous un régime de persécution permanente. C'était des périodes plus ou moins longues, avec des arrêts, où ils pouvaient ressortir à la surface. Mais souvent, ils célébraient dans les catacombes, ils disparaissaient pour se protéger aussi, et ils étaient persécutés, de nombreux ont été mis à mort, de nombreux chrétiens sont devenus martyrs, et tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreux martyrs. Le pape Jean-Paul II, il y a peut-être 25-30 ans, disait que le XXe siècle est probablement l'époque où il y a le plus de martyrs. Mais ça continue, le XXIe siècle aussi. Et il n'est pas impossible que demain, vous qui êtes jeune et qui faites profession de foi aujourd'hui, demain vous ayez à vivre votre vie chrétienne dans une société qui considérera les chrétiens comme indésirables. Je n'exagère pas, je pense, en disant cela, parce qu'on est en train de s'y diriger à grands pas maintenant, et il faut savoir ce que l'on veut. Et il faut savoir qu'être chrétien, c'est coûteux. Être chrétien, ça a un coût, et c'est pas facile. C'est pas la voie facile. La voie la plus facile, c'est d'être comme le caméléon. Vous savez ce que c'est un caméléon? Vous avez déjà vu, non? Ça prend la couleur du vêtement sur lequel... Aujourd'hui, le caméléon serait blanc. Mais il se débrouille pour avoir la couleur de l'endroit où il est. Et voilà. On risque, par manque de force, de devenir un chrétien caméléon qui s'adapte et qui renie sa foi pour éviter au pire. Mais non, le régime normal du chrétien, c'est de confesser sa foi devant tous, droit dans ses bottes, diraient certains, avec assurance, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, avec la force de Dieu qui est en lui, et jusqu'au martyr s'il le faut. Voilà une question, n'est-ce pas? Mais il faut l'envisager, et il faut le savoir. Il faut prier pour nos frères qui sont en très grande difficulté. Les évêques qui sont en Syrie, par exemple, actuellement, disent des choses très difficiles. Certains sont même très... Récemment, l'évêque d'Alep disait « Je n'ai plus d'espérance, je n'ai que ma foi, et ma foi vacille. » Et il disait « Plus de la moitié des chrétiens ont disparu, etc. » Enfin, ils vivent des choses très difficiles. Nous ne devons pas regarder cela de loin comme si ça ne nous concernait pas. Ce sont nos frères Et ils vivent la foi dans ce climat. À nous de vivre la foi aussi dans notre climat, mais il faut savoir que notre climat peut évoluer et puis devenir beaucoup plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors peut-être ce que je vous souhaite pour terminer, les enfants, c'est que vous puissiez peut-être aller encore un peu plus loin que la profession de foi aujourd'hui, qui n'est pas un sacrement, mais que vous preniez, que vous receviez le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, qui est la confirmation. Le sacrement, on reçoit en plénitude la puissance du Saint-Esprit. Il y a trois sacrements pour devenir un chrétien adulte. Il y a le baptême, il y a la première communion, et puis il y a la confirmation, qui consiste à recevoir en plénitude le Saint-Esprit, qu'il soit notre force et nous donne d'être des témoins de Jésus. Eh bien, continuez après pour recevoir la force de Dieu, le Saint-Esprit, pour pouvoir devenir témoin de Jésus dans ce monde qui demeurera forcément difficile. Il l'est déjà pour nous, il le sera aussi pour vous. Et puis, souvenez-vous aussi d'une petite parabole qu'il y a dans l'Évangile que vous avez sûrement entendue. C'est la parabole du semeur. Vous connaissez ? Jésus dit « Le semeur est sorti pour semer ». Et le semeur, en fait, c'est lui. Il se déguise sous la forme du semeur dans la parabole. Et il dit « Le semeur a semé de la semence », c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, il n'y avait pas les tracteurs, etc. Et donc il dit, il y a une partie du grain qui est tombée au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus, et ils ont mangé les graines, parce qu'elles étaient sur un sol dur, et il n'y avait plus qu'à picorer pour les manger, et puis après il n'y a plus de graines, donc ça n'a pas pu pousser. Puis il dit, il y a une autre partie de la graine qui est tombée, voyons voir, dans une terre qui était pierreuse, il n'y avait pas de profondeur de terre, et donc elle n'a pas pu lever parce qu'elle ne pouvait pas pousser les racines, il n'y avait pas de prière, tout ça. Alors ils ont écouté, mais bon, ça n'a pas été bien loin. Puis il dit, il y a une troisième partie qui est tombée dans une terre où il y avait aussi beaucoup de ronces, beaucoup de mauvaises herbes, et les mauvaises herbes ça pousse, il suffit de regarder en ce moment, ça pousse vraiment très 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 bien, si bien que ça a fini par étouffer la graine de la parole de Dieu. Et puis la quatrième partie est tombée dans la bonne terre. Et alors là, ça a vraiment produit du fruit. Et Jésus dit, ça peut produire 30, 60 ou 100 pour un, pour une seule graine, à chacun selon sa générosité. Mais enfin, Jésus est très réaliste en disant ça, en disant que quand on sème la parole, quand on catéchise, quand on témoigne de Jésus, au fond, eh bien, la parole tombe sur une qualité de cœur qui peut être tout à fait distraite, donc ça tombe sur le bord, c'est en périphérie, c'est périphérique. Oui, être chrétien, c'est un vernis, c'est un truc, c'est important, mais enfin, il ne faut pas exagérer quand même. Il y en a une autre partie qui tombe sur des cœurs qui sont durs, et donc ça peut pas, le cœur n'est pas vraiment ouvert à Dieu. Puis une autre partie qui tombe sur un cœur intéressé, ah oui, mais en même temps qui cultive bien d'autres choses à côté. Et donc, il faut toujours avoir trois fers au feu à la fois, et ça ne peut pas donner grand-chose. Et puis, il y a celui qui dit, « Oui, Seigneur, je veux vraiment suivre ta parole, t'appartenir, croire en toi. Je veux vivre ce que tu as dit. » Et ça, c'est le chrétien qui porte du fruit. Alors, je vous souhaite d'être des chrétiennes et des chrétiens demain, qui portait beaucoup de fruits avec l'aide de tous ceux qui sont là, bien sûr. On ne peut jamais être chrétien tout seul.